Plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le flash, Timur Ozturk.
Nous devons les sanctionner, nous devons les congédier. L'appel de Marine Le Pen à ses électeurs en ce 1er mai, jour traditionnel de mobilisation du parti lepéniste. Marine Le Pen en meeting à Perpignan, ville RN, tenue par Louis Alliot. Elle appelle à infliger une cinglante sanction électorale à Emmanuel Macron en votant pour la liste de Jordan Bardella aux européennes du 9 juin. Pas d'abstention, pas de dispersion non plus, martèle la présidente du groupe RN à l'Assemblée, visant implicitement la liste reconquête portée par sa nièce, Marion Maréchal. Marion Maréchal, elle en déplacement de campagne dans les Vosges, sur les terres natales de Jeanne d'Arc, où elle tente de reprendre ce symbole traditionnel du RN du 1er mai, instauré par son grand-père Jean-Marie Le Pen. En ce jour de fête des travailleurs, de nombreuses manifestations en France, moins fournies que l'an dernier en pleine réforme des retraites, et des tensions, voire des affrontements avec la police, comme en tête de cortège à Paris, des vitrines et des abribus dégradés sur le parcours. La police a tiré des gaz lacrymogènes et violemment matraqué une partie des protestataires, 25 personnes interpellées. Cortège syndical beaucoup plus calme à l'arrière. À Lyon, entre 6500 personnes selon la préfecture et 13 000 selon la CGT, avec là aussi 22 arrestations. À Saint-Étienne, ce matin, ce sont des tensions internes au cortège qui ont déclenché une vague de réactions. Le candidat aux européennes PS Place Publique, Raphaël Glucksmann, pris à partie, exfiltré de la manifestation, arrosé de peinture par quelques dizaines de jeunes manifestants au cri de Glucksmann, casse-toi. L'eurodéputé dénonce des groupuscules violents et pointe du doigt la France insoumise. Son chef Jean-Luc Mélenchon condamne l'incident. Le parti dément toute implication. L'ensemble des figures de la gauche, LFI, Parti communiste, écologiste, regrette cette agression de Raphaël Glucksmann. C'est un 1er mai interdit et réprimé tous les ans. En Turquie, 210 personnes arrêtées lors d'un rassemblement à Istanbul, où 42 000 policiers étaient déployés pour empêcher toute manifestation sur l'emblématique place Taksim. On a vu dans les manifestations du 1er mai des drapeaux palestiniens. À Gaza, le Hamas assure qu'il répondra rapidement à une offre de trêve avec Israël. Le mouvement islamiste armé palestinien exige toujours un cessez-le-feu permanent et le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. En déplacement en Israël, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken pousse pour un accord immédiat et redit à Jérusalem au Premier ministre Benjamin Netanyahou l'opposition de Washington et une opération terrestre à Rafah, dernière ville de l'enclave palestinienne encore épargnée par l'infanterie israélienne. Arrêté pour être expulsé vers le Rwanda, au Royaume-Uni, la police met en œuvre la loi controversée sur l'expulsion des sans-papiers vers le pays africain, quelle que soit leur origine, de premiers migrants arrêtés et placés en détention. Le Premier ministre Rishi Sunak espère davantage d'arrestations dans les semaines à venir.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge, le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige un sixième de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
France Inter, il est 16h04. Mathieu Noël, vous avez obligé toute votre équipe à venir travailler un 1er mai.
Exactement. C'est de l'esclavagisme, mais vous avez raison d'utiliser le mot et de le dire.
Je suis solidaire de votre équipe.
Et dites-moi, Timur, est-ce que vous étiez fortiche en géo, vous, à l'école?
J'aimais plutôt ça.
Ouais. Alors moi, j'étais une vraie buse, mais ça ne va pas m'empêcher de vous expliquer aujourd'hui ce que cache le blanc des cartes. Il y a du blanc sur les cartes, mais ce n'est pas toujours le Groenland, comme disait François Rouen. C'est surtout notre invité qui va nous expliquer.
À tout à l'heure. Le blanc des cartes, hein. Vous avez certaines zones qui sont complètement vides. Vous prenez par exemple la Corée du Nord, dans certaines dictatures, c'est du blanc, puisque ces pays-là ne laissent pas les gens cartographier leur espace. Donc on a un blanc cartographique.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous accueillir dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, une heure pour décrypter notre époque, ses mots, ses expressions, ses phénomènes et parfois même, comme aujourd'hui, ses cartes. Manon Mariani, qui avait eu 0 sur 8 dans la partie géo de l'épreuve histoire géo du bac, attendait avec impatience cette émission. Il y a longtemps maintenant qu'elle me tannait. Le mot harcèlement n'est pas trop fort. Mathieu, quand est-ce qu'on fait une émission sur la géographie ? J'adore ça, hurlait-elle souvent après quelques gin toniques. Voilà, ce jour est enfin arrivé, Manon. Espérons que vous l'avez mieux préparé que votre carte du bac géo, puisque je rappelle que si vous aviez eu 0, c'est parce qu'à la question « Compléter la légende, les zones laissées blanches sur cette carte de France correspondent à… » vous aviez répondu assez laconiquement « L'agriculture ». Cela dit, la question était perfide et c'est précisément notre thème du jour. Sur une carte, il y a toujours du blanc et même beaucoup de blanc. Mais à quoi correspond ce qui ne renvoie pas à une légende ? Qui décide du blanc des cartes ? Pour Cyril Lacarrière, ça ne fait aucun doute, c'est Jules Ferry. Oui. Le ministre de l'Éducation nationale en poste quand il était au collège. À l'époque, les cartes n'étaient pas aussi compliquées, se souvient nostalgique le demi-frère de Pascal Praud. Il y avait nous au centre, les rosbifs en rouge au-dessus et les boches à l'est. Hélas, nous allons découvrir au fil de cette émission que ce n'est pas Jules Ferry qui a présidé au choix du blanc des cartes. Alors qui ? Restez avec nous pour le découvrir. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Mathieu Nouchet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Mathieu, vous êtes géographe, c'est vous qui aviez mis 0 sur 8 à la Marianoche au bac. Et vous êtes plus précisément spécialiste des sciences de l'information géographique. Vos recherches portent sur la dimension politique et sociale des usages de la cartographie. Et vous êtes l'auteur du livre Le Blanc des Cartes, quand le vide s'éclaire, qui sort aujourd'hui même aux éditions Autrement. Livre coécrit, il faut le préciser, avec Sylvain Genevoix et le cartographe du journal Le Monde, Tché Martin Laborde. Je l'ai bien dit ?
C'est parfait.
C'est parfait. Alors Mathieu, vous allez nous expliquer ce que cache le blanc des cartes. Juste le temps de vous présenter ma petite équipe. À vos côtés, celle qui, en découvrant le tableau ce matin, dans un premier temps, avait cru qu'on consacrait enfin une émission à sa passion numéro un dans la vie. Ah, le blanc des cartes ! Ah merde ! Bon, petit ascenseur émotionnel dont elle n'avait vraiment pas besoin, sachant qu'elle venait de se prendre 90 euros d'amende. La Marianoche se baladait tranquillement au guidon de son Vélib quand soudain les gens de la maréchaussée lui font signe. Tout de suite, elle se dit « Ah ben forcément, ils m'ont reconnu !» Elle leur fait donc un coucou amical. Seulement, les policiers, eux, n'étaient pas amicaux, en fait. Et ils refont signe plus fermement, cette fois, à Manon qui croit alors, je cite, « qu'il voulait me montrer le chemin ». En fait, non. Ce qu'il voulait, c'était lui coller une prune, car Manon conduisait en écoutant de la musique, ce qui est interdit, raison d'ailleurs pour laquelle elle n'entendait rien, ce que disaient les flics. Bref, 90 euros en moins, l'appli BNP repasse en alerte orage. Mais vous comprenez bien, Manon, que nul n'est censé ignorer la loi.
Évidemment, je ne le referai plus.
Ah ben, j'espère
voilà,
bien.
Si il m'écoute. Personne ne m'a reconnu, hein, évidemment.
Quel exemple vous donnez pour la jeunesse.
Ouais, je sais, excusez-moi.
Alors, Manon, chaque après-midi, vous nous guidez dans les méandres des réseaux sociaux au programme de votre veille sanitaire.
Et ben, certaines influenceuses changent d'apparence. Et pour une fois, elles n'augmentent pas une partie de leur corps à l'aide de la chirurgie esthétique. Au contraire, elles enlèvent la leur. Et oui, fini le temps des poitrines trop refaites et des fessiers surdimensionnés. Le naturel fait son grand retour sur les réseaux, du moins chez certaines. Je vous parle de ce phénomène dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Mathieu, on va peut-être parler du blanc des cartes, mais sa couleur aujourd'hui, c'est le noir. Il y a 30 ans, jour pour jour, Ayrton Senna disparaissait. Quentin n'avait pas 3 ans, mais visiblement personne n'avait informé ses parents qu'il ne fallait pas exposer un enfant de moins de 3 ans aux écrans. Et il avait vécu en direct la mort de son idole, la télécommande dans une main, son banga dans l'autre. Aujourd'hui encore, ce fan de sport mécanique est très ému à chaque fois qu'il repense au tragique accident à Imola, ce 7e tour maudit. Et il n'est pas rare que le soir, dans le secret de sa garçonnière, il pense très fort et s'adresse même directement à Ayrton Senna pour lui dire « Ayrton,
tu aurais pu vivre encore un peu !»
Quentin, ma seule question cet après-midi, évidemment. Serez-vous en état de nous livrer votre complètement la rue ?
Pour être tout à fait honnête, j'ai adressé au président Macron une lettre pour obtenir un jour de deuil national pour célébrer la mort d'Ayrton Senna.
C'est pas gagné vu qu'il est brésilien.
Celle-ci est malheureusement restée sans réponse.
Oui, étonnamment.
Et donc je dois travailler. Alors je me suis baladé dans les rues de Paris pour vous parler des cartes, pas du philosophe, mais des maps mondes. Avez-vous remarqué des blancs ? Là, il y en a eu un. Vos réponses complètement à la rue dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, vous connaissez la tour de Babel, mais c'était où Babel ? Et d'ailleurs, est-ce que c'était une ville Babel ? Et d'Atlantide, elle était censée être où ? Au milieu de l'Atlantique ou de la Méditerranée ? 13 ans après son bac de géo, le cauchemar reprend, pour Manon Mariani, qui défiera Quentin dans un Zoom Zoom Test spécial dessous des cartes. Vous connaissez même pas l'émission, j'imagine.
Si, c'est Arte.
Ah, très bien. Ah, peut-être un petit point en plus pour vous.
Ça va.
En fin d'émission, Tania Dutel nous rejoindra. Mais déjà, Mathieu Nouchet, vous écrivez que les blancs des cartes peuvent provoquer des fantasmes sur ce qu'ils cachent. Alors moi, ça n'a pas provoqué de fantasmes chez moi, mais de quel genre de fantasmes on parle ? Vous, ça vous a fait fantasmer ?
Alors moi, mais pas que moi. Hein. Non, c'est pas une pathologie. Je pense que ça peut provoquer beaucoup de fantasmes et ça a pu provoquer beaucoup de fantasmes, notamment chez tout un tas d'explorateurs qui, en fait, fascinés par ces zones en apparence vides, ont pu monter un certain nombre d'explorations pour partir à la découverte de ces mondes anciens. Et puis, plus récemment, en fait, les blancs des cartes, ça suscite aussi, ça développe en fait l'imaginaire de tout un tas de créateurs, notamment de romanciers. On peut citer par exemple le livre de Philippe Vassé, Le Livre Blanc, dont le fil narratif en fait est assez simple. Hein. Il prend une carte de la région Île-de-France, une carte de l'IGN, la carte bleue là, des randonneurs, et il va explorer tous les blancs de cette carte. Et donc finalement, il va aller explorer toutes les friches industrielles, commerciales, agricoles qu'on peut trouver, les bretelles d'autoroute, tout ce qui se cache derrière ce blanc des cartes. Et ce qui met très bien en évidence, c'est que blanc sur la carte, ces zones sont en réalité multicolores, pleines d'activités, souvent d'ailleurs des activités un peu informelles.
C'est ce qu'on va découvrir dans cette émission. En bout de table, une rumeur infâme circule sur laquelle il n'aurait, selon laquelle il n'aurait accepté de venir bosser un 1er mai que lorsque les RH lui ont appris que c'était payé double. C'est faux, hein, c'est mu seulement par son sens du service public qu'il a préféré laisser femmes et enfants pour venir nous parler du plan des cartes. Bonjour Cyril Lacarrière.
Vous me surestimez, Mathieu, c'est gentil. Bonjour.
Alors oui, j'essaie de rêver un peu. Ouais. Alors Cyril, puisque vous êtes la mémoire vivante de la géographie française.
Non, c'est pas vrai.
Racontez-nous déjà les cartes du monde, d'où ça sort.
Accrochez-vous, nous partons pour 3000 ans avant Jésus-Christ, notre sauveur.
Oh là là, c'est tous les jours.
3000 ans, 3 millénaires, c'est-à-dire plus de 5000 ans avant Zoom Zoom Zen. Et si on remonte si loin, c'est qu'il a été admis que c'est à cette époque qu'on remonte la toute première carte. Cette carte, c'est celle de Gassur, une ville irakienne qui s'est ensuite appelée Nuzi. Si elle est considérée comme la toute première du genre, c'est qu'elle contient toutes les caractéristiques d'une carte, à savoir orientation, pictogramme, toponyme, etc. Des détails tracés sur une tablette en argile qu'on a retrouvée lors de fouilles en 1930 et qui appartient aujourd'hui à un musée de l'université de Harvard. Alors sur cette carte, il y a déjà des blancs, mais je pense que c'était juste pour faire plus simple qu'à l'époque, pas de fantasme derrière tout ça.
Et ensuite, il va falloir attendre très longtemps avant de voir apparaître la première carte du monde.
Oui, c'est vrai, mais c'est encore très loin de nous, puisqu'on attribue à Anaximandre d'avoir été le premier à en dessiner une, et c'était en 600 avant Jésus-Christ. Cette carte est, disons, partielle et partiale, puisqu'elle est centrée sur la Méditerranée et découpée en trois continents, l'Europe, l'Asie et la Libye, autour un océan tout rond. Une carte qui introduit déjà à l'époque que la Terre pourrait être ronde, on est 2000 ans avant Galilée. Après, et tout au long des siècles, chose intéressante, les maps-mondes vont souvent avoir un prisme religieux. 1492, c'est l'année du premier globe terrestre. Il est l'œuvre du navigateur Martin Benaïm, un tout petit globe car il ne fait que 50 cm de diamètre. On est sur une dimension de type bûche. Quant à la première carte de France moderne, on la doit à Horonce Fine, un astronome et cartographe. La carte a un petit nom, la Gallia, et elle est créée en 1525. Une anecdote, enfin, pour finir, en fanfare, ce DCS.
Ah oui, vraiment, fanfare.
On aurait dû mettre d'ailleurs une musique de fanfare.
On pourrait la prochaine fois.
Un peu le propos.
Quand il se lance à la découverte de ce qui deviendra l'Amérique, Christophe Colomb se base sur une carte faite par l'astronome italien Paolo Toscanelli, qui remonte à 1468. Problème, dans cette carte, il montre l'Europe séparée de l'Extrême-Orient par un océan de seulement 10 000 km de large. Il y aurait même une île au milieu. Du coup, ce bon vieux Christophe se dit que ça se tente. Il pense même que son voyage fera moins de 5000 km, finalement, ça sera 4 fois plus. Mais sans cette erreur, il n'aurait jamais découvert le Nouveau Monde et aujourd'hui, nous n'aurions pas d'iPhone. Alors, qu'est-ce qu'on cache dans les cartes? Pourquoi y a-t-il des blancs dans les...
Je suis d'avoir raconté tout ça juste pour... parce qu'il avait cette balle et qu'il voulait la placer quelque part.
Si l'Égyptien n'était pas là.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est une bonne question, Quentin. Alors, qu'est-ce qu'on cache dans les cartes? Pourquoi y a-t-il des blancs dans les cartes? Qui les décide? Pourquoi donc ces blancs éveillent notre curiosité? Et si le blanc était plus intéressant que le reste? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Mathieu Nouchet, après cette chronologie non exhaustive de l'histoire des cartes, on a besoin de vous pour comprendre ce que cache ce fameux blanc des cartes auquel on consacre notre émission aujourd'hui. Votre intro s'appelle d'ailleurs « Pour un atlas du vide ». Mais je crois que ce blanc, c'est tout sauf du vide, comme vous nous disiez.
Alors effectivement, c'est tout sauf du vide. En fait, il faut peut-être commencer par considérer qu'en fait, le blanc, c'est inhérent au geste cartographique. À partir du moment où on veut dessiner, représenter un territoire, il faut faire des choix. On ne peut pas faire une carte au 1/1000, donc on est obligé de faire une sélection de ce qu'on va représenter. Est-ce qu'on va représenter les bâtiments, les routes? Quel type de bâtiment? Quel type de route? Comment on va les qualifier? Comment on va les représenter? Et donc forcément, derrière ces choix, il y a toute une partie qu'on va mettre de côté. Donc moi, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que la cartographie, c'est aussi l'art de l'omission. On va savamment sélectionner ce qu'on va vouloir représenter ou pas. Et la thèse qu'on défend dans ce livre, c'est vraiment de dire que plutôt que de se contenter de regarder le contenu des cartes, regardons tout ce qu'elles mettent de côté, donc explorons le blanc et montrons notamment qu'il y a un certain nombre d'enjeux politiques à comprendre ce qu'on invisibilise finalement à travers la production cartographique.
Et puis aussi une autre raison à laquelle jamais pensé, vous rapportez les propos de l'écrivain Tim Robinson qui dit qu'il serait impossible d'utiliser et même de supporter de regarder une carte qui ne serait pas majoritairement blanche.
Bah effectivement, en fait, on peut se retrouver finalement parfois face à des visuels où on sature d'informations. Mmh. Et donc la cartographie suit tout un tas de règles très précises, de normes en matière de production, et il y a à chaque fois vraiment un travail qui est fait pour en avoir que l'information utile. Et donc c'est intéressant de comprendre ce qui apparaît comme utile pour le cartographe ou pour son commanditaire, et c'est intéressant de le comprendre aujourd'hui, parce qu'on a, été beaucoup là dans l'histoire et la géographie, c'est très lié, mais en fait pour moi le message important c'est de dire que le sujet est tout à fait contemporain. Aujourd'hui on a l'impression qu'on est sous un déluge de données, qu'on a des globes virtuels à la Google Earth ou je ne sais quoi. Donc, il n'y a plus de blanc, finalement, il n'y a plus de vide sur les cartes, on sature d'informations. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un niveau d'information très différent en fonction de l'endroit où on est sur la planète. Il y a encore une fracture numérique très forte qui peut se lire à travers les cartes.
On continue de vous dévoiler ce qui se cache dans le blanc des cartes juste après un délicieux interlude musical avec My Sharona de Knack sur France Inter.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Ce n'est peut-être pas votre raison de vivre comme Manon, mais la géographie est une matière passionnante. Et cet après-midi, dans Zoom Zoom Zen, on se penche sur le blanc des cartes avec vous, Mathieu Nouchet, vous êtes géographe, et vous avez justement coécrit le blanc des cartes quand le vide s'éclaire. Mathieu, qui décide de ce qu'on voit ou de ce qu'on cache sur une carte?
Le cartographe.
Mais
le
tout seul, il n'y a personne qui contrôle.
Non, le cartographe ou son commanditaire. Donc effectivement, la cartographie, c'est un instrument politique avant tout. Donc c'est intéressant de regarder qui sont aujourd'hui les producteurs de cartes ou qui pouvaient être hier. Et donc on réalise, nous, tout un travail un peu de généalogie pour remonter, pour regarder quelles sont les sources qui sont mobilisées, qui produit des cartes. On en parlera peut-être un peu plus tard autour du numérique, mais il y a une démocratisation en fait de la cartographie. Aujourd'hui, avec nos téléphones, on peut très rapidement déposer des traces, cartographier n'importe quel objet dans des systèmes un peu divers et variés. Donc le profil du cartographe s'est extrêmement diversifié ces dernières années.
Mais comment ils sont mis à jour, ces blancs des cartes? Je suppose que ça a quand même évolué énormément au fur et à mesure des années.
Alors ça a évolué en fait en fonction des pays, des territoires. Donc historiquement, il y a des instituts de cartographie qui ont produit à partir de tout un tas de normes. Et puis comme je vous le disais, il y a ensuite une grande diversité, une grande variété d'acteurs qui sont mis à produire des cartes, des scientifiques, des entreprises privées, des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on a des systèmes comme par exemple OpenStreetMap, qui est l'équivalent de Wikipédia, mais pour la cartographie. Donc c'est un système libre, ouvert, et n'importe qui, vous pouvez prendre votre téléphone, aller sur Internet et produire, remplir, combler certains blancs de cette carte mondiale.
J'aimerais qu'on remonte un peu sur le côté politique des cartes, parce qu'il y a quelque chose qui permet de bien le comprendre si on remonte dans l'histoire. Et la cartographie coloniale, vous parlez de l'effacement délibéré de certains territoires autochtones. Quel rôle cet effacement a joué dans la colonisation de ces pays?
Alors ça, c'est un rôle vraiment clé. En fait, très souvent, on a coutume de dire que la cartographie, c'est une science cumulative. On accéderait à toujours plus de données en temps réel, toujours plus d'informations. Donc quand, par exemple, ma grand-mère me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui réponds « Je suis cartographe. » Elle me dit « Mais en fait, tu fais rien, il n'y a plus rien à cartographier. Tout a déjà été cartographié. » Ben non, ça ne marche pas vraiment comme ça. Il y a des grands retours en arrière dans l'histoire, et notamment au moment des conquêtes coloniales. Donc souvent, je montre par exemple deux cartes qui ont été produites sur la Guyane. Au moment de la colonisation, et qui ont à 30 ans d'intervalle, où en fait on représentait des villages autochtones amérindiens, et 30 ans après ils ont été effacés.
Alors dans quel but toujours.
Comment?
Alors qu'ils existaient toujours,
et alors que y a encore des habitants qui les occupent. Dans quel but? Dans le but de créer le mythe de la Terra Nullius, de montrer qu'en fait on est face à un territoire vide, vierge, fertile, à conquérir, et donc d'inciter les colons à aller dans ce blanc des cartes pour pouvoir le combler, le nourrir et le développer.
Et justement, aujourd'hui, j'imagine que le blanc des cartes correspond de moins en moins à des Terra Nullius, puisque quand même, j'imagine que tout... Enfin, peut-être pas, mais vous allez nous le dire. Est-ce qu'il y a encore des terres vierges sur Terre?
Alors en fait, le blanc des cartes aujourd'hui, il y a deux aspects peut-être à prendre en considération. D'abord, il y a encore sur certains jeux de données, puisqu'en fait la cartographie s'est énormément diversifiée, donc on cartographie maintenant des choses très diverses et variées. Il y a encore des zones qui sont faiblement cartographiées ou peu cartographiées. Par exemple, l'océan c'est le parent pauvre de la cartographie, puisqu'on peut pas l'arpenter facilement. Alors il y a de l'imagerie satellite, il y a tout un tas de capteurs qui nous permettent de le cartographier, mais la bathymétrie, qui est le relief sous-marin, est par exemple très mal cartographié. Les océans, hein, c'est 70% de la planète, de la surface de la planète. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près un quart des océans, des fonds sous-marins qui sont correctement cartographiés. Il y a un projet qui s'appelle Seabed et qui vise à l'horizon 2030 de cartographier l'intégralité du relief sous-marin. Mais c'est là où le deuxième aspect doit rentrer en ligne de compte, c'est que parfois on cartographie le territoire mais de façon plus ou moins grossière. Et donc en fait, on aura sans doute à l'horizon 2030 une cartographie complète du relief sous-marin, mais dans certains secteurs ce sera très précis et dans d'autres ce sera au contraire très grossier.
Quentin, comment on cartographie le fond de l'océan?
Alors, le fond de l'océan, on le cartographie beaucoup à partir des bateaux, des navires qui ont des radars et qui permettent en fait de faire des relevés. Donc quand on regarde la couverture de cette cartographie, c'est souvent des grandes lignes droites puisque c'est les trajectoires de ces navires. Et puis par exemple, on peut utiliser aussi des drones. Il y a maintenant des drones sous-marins qui peuvent aussi réaliser un certain nombre de campagnes de cartographie des fonds.
Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est une journée particulière pour Quentin. 1er mai 1994, 1er mai 2024, nous sommes 30 ans jour pour jour après le décès d'Ayrton Senna. Or, on n'a pas le temps ici d'expliquer l'obsession de Quentin pour la Formule 1. Disons simplement qu'il est déjà très humide humiliant de se faire surprendre en train de mater une vidéo porno sur son lieu de travail. Alors imaginez vous faire surprendre en train de mater une vidéo d'une interview d'Alain Prost sur Antenne 2 en 1992. C'est pourtant ce qui est arrivé la semaine dernière à Quentin. Effectivement, véritable fétichiste de la F1. On est inquiet pour vous, Quentin. Et pour chasser les idées érotiques qui forcément vous assaillent quand on évoque le nom d'Alain Prost, quoi de mieux, Quentin, que de nous présenter votre micro-trottoir ?
Eh bien voilà, de la joie, car c'est un sujet, bien que flou, le sujet est passionnant. Je suis à côté du musée de Cluny quand Manuel, petite quarantaine, découvre...
Le blanc des cartes.
Quoi ça vous fait penser ?
Au-dessous des cartes, l'émission, sur Arte. Okay. Qui parlait de, justement des cartes, tu prenais des cartes, et en fait c'était la vulgarisation scientifique.
Pourquoi ça vous a parlé à ce point-là ?
Parce que je suis géographe de formation.
Ah. J'ai le droit d'avoir de la chance. Je vous rappelle qu'il y a deux semaines, j'ai sauvé ma chronique avec Fabrice Rouel. Donc il fallait bien que la roue tourne. Parlons justement de remplir une carte.
En deux minutes, à la radio.
C'est le but. On n'a pas le temps aujourd'hui.
Alors le blanc des cartes, donc le vide. Pourquoi il y a un blanc sur une carte ? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dedans ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Donc une carte blanche, c'est en fait un canevas, comme pour un peintre, une toile avec qu'on va remplir derrière.
Le problème, c'est qu'une fois la carte remplie, il reste du blanc.
Alors après, si on commence à faire la théorie du complot, la zone 51 aux États-Unis, qui est censée pas être représentée...
Elle est nommée d'ailleurs sur la carte ?
Je suis pas sûr qu'elle soit nommée, j'ai jamais été vérifié. Mais après, si on commence à parler des cartes modernes, par exemple, vous pouvez prendre Google Maps ou Google Street View, qui vous permet de vous représenter la Terre entière. Et si vous parlez de blanc et de vide, vous avez certaines zones qui sont complètement vides. Vous prenez par exemple la Corée du Nord, puisque ces pays-là ne laissent pas les gens cartographier leur espace. Donc on a un blanc cartographique. Pour ça, il faut autoriser les voitures de Google à circuler avec leur caméra. Je suis pas sûr qu'en Corée du Nord, Kim Jong-un soit particulièrement OK avec le sujet.
Ouais. Google Street View en Corée du Nord, on l'a pas, c'est pas faux. Et en même temps, elles font si peur, ces voitures, que je les confonds toujours avec celles qui contrôlent le parc-mètre. Dernière chose, Manuel aime les vieilles cartes.
Après, ce qui me fascine dans les cartes anciennes, qui étaient effectivement artistiques, dans lesquelles on va pouvoir représenter des créatures sur le côté des cartes, on va représenter des montagnes, non pas avec les isomètres des montagnes, on va représenter les montagnes qui vont être dessinées quelque part.
Je suis allé au musée du Vatican il n'y a pas longtemps.
Bah moi ça tombe bien, moi aussi.
Il y a une salle des...
Il y a une salle complète, effectivement, avec des cartes qui représentent l'Italie.
Il y a exactement ce que vous êtes en train de décrire.
Voilà, exactement, je pensais à ça, puisque j'ai été sur l'affaire à moi, donc voilà. C'est aussi la carte, c'est aussi une dimension de pouvoir. Cartographier l'espace et le maîtriser, et donc c'est pouvoir. La carte, c'est un instrument de pouvoir.
Je longe la rue et Jeanne me demande de lui garder une place pour sa voiture.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom ?
Je m'appelle Jeanne.
Je vous ai gardé votre place.
Vous m'avez gardé la place en plus, vous êtes adorable.
Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Alors en ce moment, je suis en train de vider l'appartement de mon père décédé il y a quelques mois.
Ok. Voilà, il y a les spécialistes en blanc des cartes et les spécialistes en blanc dans les conversations. Voilà, donc je vais faire un livre un jour, je poursuis malgré tout.
Le blanc des cartes, alors il faut savoir quand même qu'il n'y a aucun endroit sur Terre que l'humain n'a jamais visité.
Donc, on n'a plus de zone de flou.
En théorie, il n'y a plus de zone de flou.
Et donc, tout le livre repose là-dessus. Pourquoi on les laisse blanches ?
Parce qu'elles n'ont certainement aucun intérêt politique et ou social de nos jours.
Et qu'il décide de ça, c'est toute la question. Lui, avec son sac à dos, sort du magasin au Vieux Campeur. Vous savez, c'est ce magasin...
Pas bien.
Ah, on sait, alors que Manon pensait que c'était quelqu'un
pour
qui...
Pour le camping.
Oui, c'est ça, exactement, pour le camping. De randonnée, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Jacques.
Vous avez dans les mains ?
Une carte de Nouvelle-Zélande. C'est moins cher qu'un billet d'avion pour l'instant. Donc je commence comme ça.
Est-ce que le voyage commence au moment où on achète la carte ? Peut-être. Jacques découvre...
Le blanc des cartes. J'essaye d'en avoir un minimum, mais c'est pour ça que j'essaye de trouver toujours les plus grandes échelles. Et plus on prend détaillé, moins il y a de blanc. Quoi, donc,
on peut l'ouvrir, on va regarder s'il y a des blancs.
Oui. Ah bah il y a sûrement du blanc, mais après c'est pareil, je choisis aussi les cartes pour qu'elles soient le plus lisibles possible, je pense.
Qu'est-ce que ça raconte, les cartes ?
Bah oui, je sais, je suis un vieux. Hein. Et j'aime bien toucher, c'est comme les livres par rapport aux liseuses, j'aime bien avoir le toucher des cartes.
Et Jacques, justement, repense à ses voyages.
Par exemple, j'ai traversé le désert, j'ai traversé le Sahara avec une seule carte de toute l'Afrique. Et à l'époque, le guide du routard, il faisait 1,5 cm d'épaisseur et le smartphone n'existait pas. C'était...
Ah ben vous avez traversé un blanc de la carte. Puisque
j'ai traversé un blanc. Ouais.
Alors à quoi, c'est si blanc que ça ? C'est si vide que ça ?
Non, il y a plein de vie dans le désert. Aussitôt qu'on s'arrête où il n'y a personne, aussitôt il y a quelqu'un qui sort de derrière la dune... Et c'est très très habité, on croit que c'est inhabité, mais il y a du monde.
Traverser une partie d'une map monde pour se rendre compte qu'elle n'est pas si vide que ce que disait la carte, cacher, rendre invisible et avoir le pouvoir de le faire, en y réfléchissant, le blanc des cartes n'est pas si vide qu'il n'y paraît.
Et on salue Manuel, avec qui visiblement vous êtes allé en Italie, puisque c'était
un timing
à peu près. Qu'est-ce que nous cache ce blanc des cartes, Mathieu Nouchet ? Quentin a visiblement croisé, par hasard, une fois de plus, un confrère. Il parle de la Corée du Nord, pas de Google Street View en Corée du Nord, ça fait sens en tout cas. Qu'est-ce qu'on sait de la cartographie de la Corée du Nord ?
Alors, on n'a pas donc de cartographie officielle, puisque les Coréens gardent pour eux leur production cartographique. Par contre, ce qui a changé quand même énormément depuis notamment les années 70, c'est que maintenant on utilise l'imagerie satellite et que donc on n'est pas obligé de faire voler des avions au-dessus des pays pour lesquels on n'a pas les autorisations pour produire des cartes. Donc on a un certain nombre de cartes mondiales qui sont produites et l'armée française, par exemple, produit tout un tas de cartes sur des terrains d'opérations extérieures. Donc il y a tout de même une cartographie qui est produite. Après, plus près de chez nous, il y a aussi des blancs dans la carte de Google Street View. Donc Street View, on peut rappeler peut-être pour les auditeurs, c'est quand vous zoomez dans Google Maps, le système qui vous permet de voir à hauteur de Dieu, voilà, les bâtiments. Alors c'est vraiment dans un but commercial. Hein. L'idée, c'était de pouvoir repérer des boutiques et même, vous avez un Street View Inside qui vous permet d'aller, de rentrer chez le fleuriste et d'acheter un bouquet dans certaines métropoles. Et donc, jusqu'en juillet 2023, il n'y avait pas de Google Street View en Allemagne. Hein, puisqu'en Allemagne, il était interdit. Une législation avait été passée pour que l'espace public puisse pas être pris en photo par une firme internationale, par une firme américaine. Ça a changé, c'est géré maintenant à l'échelle des Landers. Et c'est intéressant aussi de regarder comment Street View répartit ses efforts, parce que vous avez effectivement les voitures qui ressemblent là à des radars, mais vous avez aussi plein de gens qui utilisent Street View avec des sacs à dos. Il y a un sac à dos Street View qui vous permet d'aller sur différents endroits. Donc il y a aussi une espèce de recherche de Google d'aller dans des lieux de plus en plus insolites. Et moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a dit en début d'émission, cette idée qu'on va aller combler les blancs de Street View dans des endroits un peu incroyables.
Jacques et sa traversée du Sahara. On croit que c'est vide sur la carte alors qu'il y a du monde derrière chaque dune. Comment le Sahara est représenté sur nos cartes en 2024 ?
Bien souvent, effectivement, le Sahara est représenté par un vide ou par quelque chose d'extrêmement homogène, alors que, en fait, c'est un territoire qui est très largement parcouru, donc on pourrait le représenter avec tout un tas de traces. C'est un territoire aussi qui est habité. C'est un territoire dans lequel il y a tout un tas de phénomènes qui sont mouvants et qui se déplacent. Et donc, il y aurait toute une cartographie bien plus détaillée à faire que cette grande un aplat de couleurs un peu simple. Moi, je travaille beaucoup sur l'Amazonie et c'est pareil. L'Amazonie, souvent, on réduit ça à un paquet vert. C'est tout vert, c'est la jungle. Voilà, pour travailler beaucoup, par exemple, sur l'intérieur de la Guyane, on a montré que l'intérieur de la Guyane, c'est pas la jungle impénétrable. Au contraire, c'est un espace très largement travaillé, parcouru, qui a une mémoire, qui est habité, qui est nommé aussi par les habitants.
Est-ce que quand même l'un de leurs points communs, c'est pas que, c'est que ce sont des endroits où c'est difficile d'avoir accès, où c'est difficile aussi de voyager.
Alors c'est à la fois ces zones comme ça qui sont un peu délaissées cartographiquement, c'est des territoires effectivement difficiles d'accès, difficiles d'aller les arpenter, donc du coup difficile d'aller faire des relevés sur le terrain. Et puis ça peut être aussi des territoires difficiles à voir vu d'en haut, puisque la cartographie ça se fait beaucoup vu d'en haut. Si je prends l'exemple de l'Amazonie, on est proche de l'équateur, il y a une couverture nuageuse énorme.
On
voit pas bien. Quelques satellites permettent à travers différentes technologies passer à travers les nuages. Et puis l'Amazonie, c'est une canopée, c'est une densité de la forêt qui fait qu'il peut se passer plein de choses sous les arbres, mais vous ne le voyez pas vu d'en haut. Donc problème d'accès, problème de visibilité, tout ça conjugué peut conduire effectivement à laisser dans le blanc des cartes ces territoires pendant encore un moment.
Cet après-midi, on interroge les cartes, pas comme Manon quand elle se fait tirer les tarots pour savoir si la police va retrouver ses AirPods qu'elle a perdus à Lourdes. Non, les cartes de géographie. Avec vous, Mathieu Nouchet, en tant que géographe, vous nous direz d'ailleurs ce que change l'irruption des géants de la tech dans la cartographie. Et puis évidemment, vous superviserez le Zoom Zoom Test, notre quiz fratricide, durant lequel Manon et Quentin tenteront de ne pas trop se couvrir de ridicule sur des questions comme « Mais au fait, c'était où Babylone ?» Relèveront-ils le défi ?
Non.
Réponse après Sir et Anderson Paak. Poetry in Motion sur Inter.
If I slip, I slide, I don't trip, I glide when I dip, I dive when I dive, I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When it's poetry in motion, she don't ever mind me. If I slip, I slide, I don't trip, I glide when I dip, I dive when I dive, I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When it's poetry in motion, she don't ever mind me. I'm a Mac, little baby, no, it's a fact. Los Angeles in my lap, got belly still in the trap. Really be spitting bars, got niggas thinking I rap. I'm hanging out with the stars, still can't relax, even in these foreign cars. I'm rolling around with the strap, when I hit it hard. Permission to make it clap, I need a round of applause. But I might settle for that, had to break a couple laws. Put my city on the map, you think you beat the pussy up, but you didn't make her come. Even if you made her come, she ain't ever coming back. Play it like you couldn't call it, it's just something that you lack. Michael Jack, got Billie Jean talking.
spinning racks, representing is a trend. I don't see no end to that. Where you at?
If I slip, I slide. I don't trip. I glide when I dip. I dive when I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When it's poetry in motion, she don't ever mind me. If I slip, I slide. Slide. I don't trip. I glide when I dip. I dive when I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When it's poetry in motion, she don't ever mind me.
They told me slowly is the fastest way to get where you wanna be. So I ease to a steady speed, let that bitch breathe. No push, stop, give me keys to that blue Impala, this the good part. When you're living everything you thought about, no single mothers who had to teach their sons how to squabble. No killers who became good fathers who raised their daughters. Look now, AP, I'm 50 for my keys. Las Vegas residency, I brought the two of them me. The good part. It's father for father, I know it might look hard, but baby, nothing is out of your reach. Grabbed it and I'll be damned if they gon' take it from me. Passion is what I had before any grand.
She can roll with me, it's a lucky day. Got a pound of tree and a gang of yay.
We have sacks and some dirty bands, blowing hella bands. I don't smoke, but I'm still high, that's the price of gas.
If I slip, I slide, I don't trip. I glide when I dip, I dive when I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When it's poetry in motion, she don't ever mind me. If I slip, I slide, slide. I don't trip, I glide, glide. When I dip, I dive when I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When come it's poetry on. In motion, she don't ever mind me.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
À l'heure d'entamer un quiz lié évidemment à notre thème du jour, la cartographie, j'aimerais vous rapporter cette exclamation joyeuse, presque candide, de celui qu'on dépeint trop souvent comme un vieux bougon acariâtre, Cyril Lacarrière, notre rédac-chef qui, lorsqu'il a lu la première question de ce quiz, où se situait vraiment la ville de Babylone, s'est écrié « Ah, génial, ça sera l'occasion d'écouter Boney M. » Bouleversé, profondément bouleversé par ce cri du cœur du boomer qui voit sa jeunesse disco s'estomper dans le crépuscule d'une mémoire défaillante, je lui dis oui Cyril, ce sera l'occasion d'écouter Boney M, mais pas que, parce que le but premier du quiz c'est d'apprendre. Gay savoir forever. Jouons au
le
Zoom Zoom
premier,
Test.
Le but premier, on n'est pas sûr, mais...
Le but premier, Manon, faites très attention. Un Zoom Zoom Test spécial, lieux imaginaires, mythiques.
On laisse Boney M, du coup.
Ouais. On laisse Boney M parce que ça fait plaisir à Cyril, c'est une demande qui vient d'en haut. Un Zoom Zoom Test spécial, lieux imaginaires, mythiques ou juste piégeux pour emmerder la Marianoche. Et le suspense est modéré puisque vous connaissez donc la première question, Manon Quentin. Où était située la célèbre Babylone ? Je vous donne l'opportunité d'une réponse spontanée qui vaudrait à ouais, celui ouais. ou celle dont la culture G le permettrait non pas un mais deux points. Une fois,
j'ai honte.
Deux fois. Non, bon, et voilà, on va passer au QCM. La célèbre Babylone était située dans l'actuel Irak, Afghanistan ou Syrie.
Ah,
C.
Pour vous, ouais. Quentin, dans Syrie, ouais. pays de Bachar el-Assad. Hmm que vous situez.
Ah, ça doit être ça.
C'est une très mauvaise bonne réponse de Marie
ah bon
qui a répondu au hasard, mais c'est une bonne réponse. La mythique Babylone était située en Irak. C'est pourquoi quand Cyril m'a dit ce sera l'occasion d'écouter Dalida, je lui ai dit là non, là franchement tu fais fausse route, vieux, tu fais fausse route. Bref, Babylone était située très exactement à 90 km au sud de Bagdad, dans la région appelée Basse Mésopotamie, une vaste plaine alluviale entre Bagdad et le golfe Persique. Mais attention, top ! Enfilez vos Saint James, on file en haute mer à la recherche d'une cité qui est toujours, alors elle, pile dans le blanc des cartes. L'Atlantide. Simple allégorie politique pour les Indes, Zeus ayant englouti l'île légendaire pour punir les Atlantes qui avaient sombré dans la dépravation. On aurait dit Mariani au mariage à Lourdes quand elle finissait les fonds de verre à 4h du mat. Je peux pas tolérer ça, avait dit Zeus dans une note vocale à Poséidon. Bref, mythe pour les uns, mais réalité pour les autres, qui se base sur le fait que Platon présente son récit comme une histoire vraie et en prêtant à Socrate les mots suivants, que ce ne soit pas une fiction fabriquée mais une histoire véritable, voilà qui est essentiel. Et donc, depuis deux millénaires, certains cherchent où est située cette foutue Atlantide. D'après vous, quelles sont les hypothèses ? L'Atlantide est engloutie au milieu de l'océan Atlantique, au milieu de l'Amazonie, ou bien elle n'est pas engloutie du tout puisque c'est l'île de Santorin.
Les trois, pourquoi les trois ?
Bah, je sais pas, il y a trois théories, non ?
Ah oui, bah, c'est possible dans ces cas-là, mais j'imagine que vous attendez une réponse.
Bon,
ce sera la réponse A pour moi.
Réponse A pour vous ? Pour vous, c'est l'Atlantique et nulle part ailleurs.
Ah, peut-être.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani. A, B, C. Ce qu'il faut retenir, c'est que la cité de l'Atlantide a été imaginée un peu partout en fonction des époques, y compris, alors ça m'a vraiment surpris, au cœur du désert du Sahara. Toujours pas, Cyril, toujours pas. Arrêtez-le. Mais attention, direction justement l'autre pays de Cyril, The United States of America. Là où il était d'ailleurs pas plus tard qu'en décembre dernier, arborant fièrement sa casquette Make America Great Again. Ma question est la suivante. À défaut de connaître Babylone et la Mésopotamie, vous connaissez les Simpsons. À votre avis.
C'est pas du tout le générique. Ah si,
oui. Oui, c'est une version. Alors ça, c'est Ghislain Fondat, notre aide, qui a insisté pour qu'on entende cette
version.
Fallait
mettre l'original.
À votre avis, la ville de Bart, Homer et Marge, Springfield, est située dans quel état? Le Maryland, l'Oregon, ou dans aucun état, puisque c'est une ville imaginaire?
B.
C. C'est pas une ville imaginaire? Les Simpsons?
Honnêtement, je pense pas.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani.
Oh là là. Soit A ou B, mais...
Le Springfield des Simpsons est dans l'Oregon. C'est un vieux mystère qui a agité pendant 20 ans les fans de la série qui se demandaient quel Springfield était le Springfield des Simpsons, sachant qu'il y a des Springfield un peu partout, dans 29 états d'ailleurs, des États-Unis. Matt Groening, le créateur de la série, a fini par clore le débat en précisant qu'il s'était inspiré de Springfield dans l'Oregon. Il n'avait rien dit jusque-là, justement pour que les habitants des autres Springfield puissent imaginer que c'était de leur ville qu'on parlait. Enfin, attention, c'est le moment de tout miser sur votre atout majeur, la vivacité. Les questions en rafale devenues, pour s'adapter à vos capacités, les questions en légère brise. Manon, Quentin, je vous donne des noms de villes ou de pays, à vous de me dire réel ou imaginaire. Top. Byzance.
Réel.
Imaginaire.
Imaginaire, évidemment. Byzance n'a pas du tout été une cité grecque, capitale de la Thrace, située à l'entrée du Bosphore, Constantinople et ensuite Istanbul, ça s'appelle.
C'est
donc
vrai,
ça existait.
Vrai.
Coulonnier.
Réel.
Faux, c'est Coulommiers.
Bah, Coulommiers.
Bonne réponse de Quentin. Coulonnier n'existe pas. Coulommiers existe.
Sur la particulière aussi.
Twin Peaks.
Faux, imaginaire.
Vrai.
Bourgade imaginaire, Manon. Théâtre de bien des mystères dans la série culte du même nom. Signé David Lynch, ça n'existe pas. Enfin, Coruscant.
Vrai.
Faux.
Réel.
Vrai. Vous l'avez même visité, je crois.
Bien sûr.
Entre Corée du Sud et Coruscant, je crois.
Je crois que ça doit être ça, ouais.
Oui, non, c'est une ville de Star Wars. Victoire triomphale de Manon sur la géographie.
Sur le vrai faux,
là, le vrai faux.
Sur le vrai faux, vous êtes un peu planté. Mais bon.
C'est une belle victoire.
Ravi, écoutez.
Voilà.
Du déluge au désert de données. C'est le titre d'un chapitre de votre livre, Mathieu Nouchet, Le blanc des cartes quand le vide s'éclaire, qui sort aujourd'hui, je le rappelle, aux éditions Autrement. Et effectivement, aujourd'hui, les géants de la tech se sont immiscés, on l'a dit, dans la cartographie. Qu'est-ce que ça change à notre question du blanc des cartes?
Alors ça change beaucoup de choses. D'abord, on l'a dit hein, depuis le début de l'émission, il y a des enjeux très politiques derrière la production cartographique et donc finalement se posent des questions autour de la souveraineté des États, puisque pendant très longtemps, les États-nations ont été les seuls à pouvoir dessiner leur territoire. Mmh. Aujourd'hui, finalement, le système cartographique le plus utilisé sur les téléphones à travers plein d'applications, c'est Google Maps, c'est un système américain et ça veut dire que finalement leur vision cartographique, leur vision du monde va en fait se propager. Hein. C'est aussi du soft power. Et puis, on se rend compte aussi que ces leaders de la cartographie aujourd'hui sont plutôt des boîtes qui tournent dans le numérique. Donc, on introduit beaucoup d'algorithmes, beaucoup de programmes informatiques, on automatise tout un tas de choses. Et on voit apparaître aussi de sortes de boîtes noires algorithmiques, des systèmes dont on ne comprend pas forcément très bien les contours.
Qu'est-ce que vous entendez par boîte algorithmique?
Alors, je vais vous donner un exemple très, très simple. Depuis 2013, Google Maps utilise la personnalisation algorithmique. Donc, la personnalisation algorithmique, c'est ce qu'on appelle aussi des fois la contextualisation algorithmique. Hors du champ cartographique, si je vous prends l'exemple d'Amazon, vous allez sur Amazon, vous faites une recherche pour une BD, vous achetez un dictionnaire, 15 jours après, vous retournez sur Amazon, il vous repropose la BD parce qu'il vous a tracé, il a vu que ça vous intéressait. C'est la même chose au niveau de Google Maps. Google Maps vous trace, vous profile, et s'il se rend compte par exemple que vous aimez les restos japonais mais que vous n'allez jamais dans des pizzerias, il va plutôt vous proposer des points d'intérêt autour de restos japonais.
Ils vont apparaître sur la carte ?
Qui vont apparaître sur la carte de façon plus évidente, mise en valeur, plutôt que d'autres types de restaurants. Alors ça peut paraître extrêmement anecdotique parce que l'objectif c'est de vendre de la pub et c'est commercial, mais en fait pour les géographes c'est hyper important parce que la carte jusque-là c'était un support de discussion, de partage. On avait tous la même carte sous les yeux, donc quand on avait un conflit territorial, des enjeux, on était en capacité de discuter du même support. Là on est rivé derrière nos ordinateurs et finalement on personnalise nos cartes, donc on a des visions individualisées.
On parle même plus de la même chose en fait.
Voilà, on parle même plus. Moi j'ai pas de voiture, j'ai un vélo, peut-être qu'il me représentera plus la rocade de Bordeaux, mais uniquement les pistes cyclables. Et à terme, ça va changer véritablement ma vision du territoire et surtout, ça va la déconnecter de la vision d'autres habitants de ce territoire. Donc, il y a à la fois cette dimension internationale et perte de souveraineté et puis la dimension numérique et algorithmique qui peuvent être mises en évidence.
Est-ce que pour vous, le blanc des cartes, à l'heure où on a compris les géants de la tech pouvaient combler tous les vides, est-ce qu'il faut garder du blanc dans les cartes? C'est important.
Alors effectivement, il ne faudrait pas laisser croire ou faire passer le message qu'il faut absolument combler tous les blancs de la carte et que le but, c'est simplement de les révéler pour ensuite les combler. Non, il y a encore des territoires et des zones qui restent dans les blancs des cartes et où en fait, les habitants souhaitent aussi rester dans ces blancs des cartes, ne souhaitent pas forcément être cartographiés de façon précise ou détaillée ou par différents systèmes. On a parlé de l'Allemagne tout à l'heure avec le système Street View, où il y a une loi qui interdisait cette prise de vue jusqu'en juillet 2023. Il y a d'autres territoires ailleurs sur le globe, souvent des territoires transnationaux que l'anthropologue James Scott appelle des zones refuges, des zones qui sont souvent un peu délaissées, en périphérie. Moi, si je vous ramène sur mes terrains autour de l'Amazonie, par exemple, je travaille beaucoup autour du Maroni, du fleuve Maroni, et il y a là-bas les Bushinengués, qui sont les descendants des Noirs marrons, qui en fait ont des modes de vie et une culture qui plutôt prônent de rester discret, et donc de pas forcément se mettre en lisibilité vis-à-vis des autorités publiques.
Vous parliez de votre grand-mère qui disait « je comprends pas ton métier, tout a été découvert ». Mais avec le changement climatique, la montée des eaux, ou même juste le monde qui évolue perpétuellement, c'est plus qu'un métier d'avenir. Cartographe.
Ah oui, ça c'est évident. Et d'ailleurs, maintenant, on parle plutôt de géomaticien. Le géomaticien, c'est le mélange entre l'informaticien et le géographe, puisque le cartographe, c'est plutôt celui qui va faire de la cartographie d'édition sur papier, dans les journaux. Et le géomaticien, c'est celui qui va produire des modèles numériques, justement, par exemple, pour faire des simulations, traiter des images satellites. Et on voit la géomatique se développe. Il y a plein de formations en France en géomatique. Niveau
la géomatique est un mot qui
Oui, alors c'est un mot
désormais
québécois.
Oui, mais on peut peut-être l'importer pour faire une émission de Zoom Zen, par exemple. Oui,
exactement. On peut tout à fait.
On note.
Et alors, je serais curieux d'entendre le quiz, mais autour de la géomatique.
On se débrouillera. Vous serez là.
Il va refaire le même, vous inquiétez pas.
Parce que je dois dire quand même que je mets un gros veto sur le quiz que vous avez réalisé tout
Pourquoi
à l'heure. Parce que ce quiz, en fait, on lutte, nous, en permanence, quand les étudiants arrivent à l'université, pour leur expliquer que la géographie, c'est pas le camembert bleu du Trivial Poursuit.
Et là, pour moi, c'est exactement ça. Évidemment. Voilà. Avec Manon et Quentin, je pouvais difficilement faire mieux.
Ça dit comme
c'est de notre faute.
Donc la géographie, c'est autre chose. Et donc la géomatique, c'est encore autre chose. C'est un mélange de géographie et d'informatique. Et donc, à partir des GPS, de l'imagerie satellite, des systèmes LIDAR, de tout un tas de capteurs, à partir d'éléments techniques, et puis aussi à partir d'éléments qualitatifs. Ça, c'est des gros enjeux de recherche actuellement. C'est développer aussi des approches plus qualitatives pour faire une cartographie, par exemple, sensible, qui se rapproche de la perception des habitants. Donc, c'est effectivement un domaine d'avenir. Autant au niveau méthodologique qu'au niveau des thématiques multiples.
Il faudrait que les gens soient impliqués, que ça soit que la géographie devienne plus interactive, que les gens des territoires concernés puissent exprimer.
C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Vous avez déjà tout un tas de démarches participatives dans laquelle la carte est utilisée. Alors parfois c'est juste un support de communication, parfois c'est un support pour que les gens aillent pointer tel ou tel événement, et puis parfois ils sont au cœur de la production cartographique. Par exemple, moi j'ai pu participer à des animations de cartographie participative à Saint-Laurent-du-Maroni, donc en Guyane française, proche du Suriname, où on compte beaucoup de quartiers d'habitat informel, des bidonvilles avec énormément de populations haïtiennes qui réclament en fait un accès à l'eau, un accès à l'électricité, et qui se sont regroupés en collectif pour cartographier leur territoire, puisque leurs habitats restaient dans le blanc des cartes officielles.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, Tania Dutel, qui m'a longuement remercié de lui avoir attribué le sujet sur le blanc des cartes.
Connard !
Oui.
Connard !
Oui. Oui, mais vraiment, Tania, plaisir de faire plaisir. Tania va donc nous rejoindre pour déconner autour du blanc des cartes. Mais d'abord, que se passe-t-il de beau sur les réseaux sociaux? Maintenant, vous avez la réponse. D'ailleurs, c'est pas toujours beau. Aujourd'hui, rien ne va plus. Vlatipa, comme dirait une personne que je connais bien, que les influenceuses changent d'apparence.
J'ai tout enlevé et je veux plus rien faire. Et c'est 100 fois plus beau une fille au naturel qu'une fille toute refaite.
Vous venez d'entendre la star de télé-réalité des Marseillais, Maëva Guénam, 26 ans, qui raconte face caméra à ses millions de followers qu'elle a retiré sa chirurgie esthétique. Un choix assez inattendu, car Maëva a toujours assumé avoir refait ses fesses, sa poitrine, ses lèvres et mis du Botox dans son visage. Et au-delà de l'assumer d'ailleurs, c'était quand même très voyant. Au fur et à mesure des saisons, difficile de ne pas remarquer le changement de physique de la candidate. Mais cette période est donc révolue. Maëva Guénam a changé son fusil d'épaule et prône maintenant la beauté naturelle. Alors sur elle, ça se voit surtout au niveau de ses fesses qui ont repris une taille, on va dire, normale. Elle dit qu'elle a cédé à un phénomène de mode avec la chirurgie. Elle encourage ses jeunes followers à ne pas suivre son exemple. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Nabila a aussi dit qu'elle avait enlevé toutes ses injections et fait réduire sa poitrine. Pareil pour la rappeuse américaine Black China. Et hier, une autre les a rejoints, l'influenceuse américaine Bad Baby, qui s'est dévoilée pour la première fois sans chirurgie aux 16 millions de personnes qui la suivent sur Instagram.
Si je comprends bien, la mode fait un virage à 180 degrés.
Totalement. Alors, on le sait, les modes sont si cyclique, mais c'est vrai que celle de la chirurgie esthétique a duré des années. Dans les années 90, elle était surtout tendance chez les actrices porno. On se souvient tous de la poitrine de Lolo Ferrari. Et dans les années 2000, la chirurgie s'est totalement démocratisée avec l'avènement de la télé-réalité et évidemment l'arrivée des réseaux sociaux. À l'époque, les candidates veulent toutes ressembler au stéréotype de la bimbo, gros seins, grosses lèvres, grosses fesses, un attirail pour faire fantasmer la gente masculine. Pire encore, avant la loi qui encadre les influenceurs votée l'année dernière, ces influenceuses pouvaient faire la promotion de la chirurgie esthétique sur leur réseau. On les voyait donc collaborer avec des centres de chirurgie esthétique et recommander des noms de chirurgiens en partageant leur compte Instagram. Et puis certains se filmaient carrément en pleine opération. La Marseillaise Kim Glow, par exemple, a posté sur ses réseaux des vidéos d'elle sur son lit d'hôpital en train de subir une augmentation des fesses dans une clinique en Turquie. Évidemment, code promo à la clé.
Oh,
c'était totalement n'importe quoi et ça incitait surtout les plus jeunes à faire de même. La preuve, le nombre d'interventions réalisées sur la tranche d'âge 18-34 ans dépasse désormais celui de la tranche des 50-60 ans.
Alors c'est très flippant, mais la bonne nouvelle c'est que ça va peut-être diminuer. Alors
peut-être, difficile à dire pour le moment, et ça pourrait effectivement arriver plus tôt que prévu. Car cette mode du retour au naturel est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux, notamment chez la jeune génération sur TikTok qui se montre sans filtre et sans retouche. Filmer son acné est par exemple devenu quelque chose de normal, ce n'est plus un événement comme il y a encore quelques années sur Instagram. Même les tutos make-up qui cartonnent sont souvent accompagnés du mot naturel. Fini le contouring et les 3 tonnes de fond de teint sur le visage, les jeunes filles préfèrent miser sur 3 produits essentiels, une bonne crème, un blush pour les joues et du gloss sur les lèvres, simple, basique. On en est arrivé à un point où voir des corps ultra siliconés, liftés et filtrés commence à faire un peu tache sur les réseaux. D'autant plus que ces dernières années, beaucoup d'influenceuses ont témoigné pour parler des problèmes physiques que cela leur a causés. Luna Sky, par exemple, une ancienne candidate des Marseillais, a alerté sur les techniques de certains chirurgiens après son opération ratée. Elle a eu plus de 40 injections aux fesses et a dû être hospitalisée après une infection. Pour conclure, je voudrais rappeler que si chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment, avec son corps, une opération de chirurgie esthétique comporte quand même toujours des risques. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère, ça peut avoir des répercussions. D'ailleurs, c'est aussi le cas quand on l'a fait retirer. Ça demande aussi de la convalescence et de la cicatrisation. Le bistouri n'est pas forcément notre ami.
Merci Manon, et voyez, j'écoute ce que vous dites, je suis vos conseils, je prends mon téléphone et je le fais en direct. Opération avec le docteur Erdogan, clinique capillaire d'Istanbul, annulée. Voilà, Zoom Zoom Zen continue avec Tania Dutel, juste après David Walter. Qui ça ?
C'est les mots bas, oui les tout bas, on plairait tout bas, c'est plairait bas, senti la peau, moi c'est les corps, et j'attends ta, plairait moi c'est plairait bas.
Qui ça nous fait pour se reconnaître, qui ça nous peut faire,
qui ça nous.
ça nous, qui ça nous, qui ça nous fait pour sauver comme nous,
comme ça.
Qui ça nous,
qui ça nous,
qui ça nous,
qui ça nous,
qui ça nous fait pour sauver l'amour,
ah. Ça nous peut faire.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
À la réception du sujet, elle a tout de suite répondu « Oh joie, j'ai fait un BTS blanc des cartes, je maîtrise donc parfaitement la question ». Elle n'hésite même plus, elle hésite même à ne pas aller surfer cet été pour suivre Mathieu Nouchet dans ses recherches. C'est évidemment Tania Dutel. Bonjour Tania.
Bonjour, c'est tout à fait ça Mathieu. Et Mathieu. Vous savez, c'est pas ironique, je suis vraiment passionnée par les gens qui sont passionnés par des trucs dont j'ai absolument jamais entendu parler. Et j'en avais tellement jamais entendu parler que quand Cyril m'a dit « Cette semaine, ton thème, c'est le blanc des cartes », mon cerveau a voulu entendre « Cette semaine, c'est carte blanche ». Et non, donc le blanc des cartes. Alors en gros, arrêtez-moi si je dis une connerie, ce sera sûrement le cas. Hein. On croit que la planète est cartographiée avec précision dans ses moindres recoins et pas du tout, entre autres pour des questions politiques, mais pff, vous en avez tellement tous bien parlé pendant une heure que je me dis que ça serait insultant si je continuais sur ça, quoi. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur votre travail. Quand je ne sais pas, je lis, et j'ai lu dans le courrier « Qui n'a jamais été intrigué en dépliant une antique carte Michelin ou en parcourant Google Maps par cette zone vierge de toute indication de nom, de nature, de topographie ?» Ben moi, en fait, j'avoue que je ne m'étais jamais posé la question, ou alors tout au plus, je me disais, il ne doit rien y avoir. Ou alors peut-être des prés avec des vaches ou d'autres animaux. Voilà. Sinon, dans Ouest France, bon nombre de personnes utilisent un GPS pour se déplacer. Ces cartes-là semblent plus objectives, honnêtes. Je ne dirais pas ça. Trompeuse, ça, je n'ai pas peur de le dire. Je déteste conduire dans des endroits que je ne connais pas parce que, je suis désolée de le dire, mais le GPS, en fait, des fois, il est en retard et des fois, je tourne à droite. En fait, il fallait tourner. Et il y a des gros soucis de géolocalisation. Ça va vous couper la chine. Mais en fait, un jour, j'étais dans le 5e et je commandais un Uber pour rentrer chez moi. Et en fait, donc, je le suis sur le GPS. Et là, Vlatipa, que je vois qu'il est dans la Seine. Et je me dis, oh là là, j'ai commandé un chauffeur qui est bourré. Je l'ai tué sans faire exprès. La tension monte.
Ouais, ouais.
Vous avez peur de la fin de l'histoire ? La voiture est arrivée, sèche. Et dire, Mathieu Nouchet, que vous avez rédigé un livre sur le sujet qui fait 407 pages. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ah si ! Est-ce que vous avez étudié la carte de la Haute-Saintonge en Charente-Maritime entre 1990 et maintenant ? Parce qu'en fait, il se trouve que dans l'épisode striptease de la soucoupe et le perroquet, eh bien, il y a la maman de celui qui construit la soucoupe qui dit qu'en fait, elle a coupé le noyer. Parce que, en fait, il n'est pas prouvé que la soucoupe puisse monter d'un coup, finalement. Et que donc, si elle part et qu'il se prend le noyer, eh ben, il meurt et il peut pas mourir à cause de la construction de la soucoupe parce qu'elle est protégée. Il y a des photos de MacGyver partout dedans. Alors que le noyer, oui, il peut clairement le tuer. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de regarder les différences des cartes entre 90 et... Bon, ça vous parle pas. Et qu'est-ce que vous pensez sinon de la carte des platistes ? Parce qu'en fait, c'est vrai que cette carte, elle est différente de la nôtre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est entourée par l'Antarctique puisqu'en fait, ça fait des montagnes de glace. Et c'est ça qui empêche l'eau, finalement, de tomber dans l'espace distillé. Alors, il est vrai que moi, déjà, le réchauffement climatique, ça me met pas bien. Je n'imagine même pas leur angoisse, parce que moins il va y avoir de glace et plus ils vont être dans le souci. Parce qu'en fait, je pense qu'on va avoir même beaucoup de vidéos YouTube des platistes en disant « La baignade peut tuer, vous allez être aspiré comme par une chasse d'eau, on vous aura prévenu quand vous allez flotter dans l'espace ». Enfin voilà, je suis bien... Ça vous parle pas non plus.
Non plus. Merci Tania Dutel. On retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zoom. Mais c'est une vraie question, ça, les platistes. Alors déjà que les platistes, on a du mal à leur répondre. Mais vous, en tant que géographe, qu'est-ce qu'on peut dire à un platiste ?
Ben, on peut lui dire au revoir.
On peut lui dire au revoir et c'est ce qu'on fait. Merci Mathieu Nouchet d'avoir percé pour nous le mystère du blanc des cartes. Je rappelle votre livre, Le blanc des cartes, quand le vide s'éclaire, coécrit avec Sylvain Genevoix et Chez Martine Laborde, et qui sort tout pile aujourd'hui aux éditions Autrement. Après, il faut encore trouver une librairie ouverte, mais on compte sur vous. Merci à tous, Manon, Cyril, Quentin. Peut-être un petit mot pour Ayrton Senna qui nous a quittés, je le rappelle, il y a 30 ans jour pour jour.
Tu aurais pu vivre encore un peu.
À la technique, c'était Maxime Goudard et à la console,
ça, hein.
À la console, le Verstappen de la réalisation. Ouais. Et encore plus impressionnant que Verstappen, car je ne crois pas que Verstappen arrive sur le circuit une heure seulement avant la course. Ghislain Fontana, cette émission n'aurait pas pu voir le jour sans elle. On embrasse également Fanny, Léonore Crouzet, Amel Calvi et Sybille Bulou. Demain, on zoomera sur ce qui est encore un grand tabou chez Cyril, mais plus trop dans la société française, le flexitarisme. Ou quand, à défaut d'arrêter totalement de consommer de la viande, on décide déjà d'en manger un peu moins. Oui, Cyril viendra à reculons, mais il sera là quand même. Alors à demain 16h, et jusqu'ici tout va bien, Marine Bausson, Marie Missé, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, mais c'est incroyable, on va recevoir un flexitarien aujourd'hui,
mais non,
même
mais
si
sortez-le de là.
Aujourd'hui on reçoit l'humoriste Vérino.
Il va nous expliquer comment on peut faire rire en parlant d'écologie, ce qu'il fait dans son spectacle qui s'appelle Focus.
Et vous Mathieu, alors vous êtes un peu focus?
Alors je suis complètement focus et un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu flexitarien.
Ah,
tout de suite.
Vous êtes le tarien de flexi.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R, la mondiale, vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. IKEA.
On est quand même bien.